Vous êtes sur RTL. RTL Matin,
Dominique Tenza.
Et pour le journal complet, c'est Aude Vernuccio. Bonjour Aude.
Bonjour Dominique, bonjour à tous. À la une, ému, abattu, les hommages au pied de la cathédrale de Nantes se multiplient depuis hier soir. Le bâtiment sauvé mais abîmé par les flammes. On fera le point sur l'enquête dans un instant. Première avancée, un homme a été placé en garde à vue. Avec le reconfinement de Barcelone, la tentation est grande de refermer les frontières côté français. C'est en tout cas ce que réclament certains élus locaux pour les villages frontaliers. Et puis le foot veut éviter tout risque de contamination pour la finale de la Coupe de France. Ce sera vendredi prochain.
Le parquet ouvre donc une enquête à Nantes pour incendie volontaire 24 heures après l'incendie qui a ravagé la cathédrale Saint-Pierre.
La piste criminelle n'est donc pas écartée. On sait déjà que 3 départs de feu ont été constatés, mais pas de traces d'effraction. La police judiciaire a été saisie. Des experts scientifiques parisiens sont en route pour Nantes. Et Guillaume Chiez, on vous retrouve en direct. Première avancée dans l'enquête ce matin, un homme a été placé en garde à vue.
Oui, un homme qui a été interpellé hier dans la journée. Impossible à l'heure qu'il est de savoir exactement de quoi il est soupçonné. Mais les enquêteurs de la police judiciaire ont beaucoup de questions à lui poser, notamment sur ces 3 foyers de départ de feu constatés. Et hier, le procureur de la République annonçait qu'aucune trace d'effraction n'avait été relevée à l'extérieur de la cathédrale. Et les enquêteurs de la PJ vont également s'appuyer sur les experts du laboratoire central de la préfecture de police venus de Paris. C'est eux qui avaient déjà travaillé sur l'incendie de la cathédrale Notre-Dame l'an dernier, et des experts qui ont commencé leur prélèvement dès hier pour déterminer le scénario exact de cet incendie.
Les informations de Guillaume Chiez du service police-justice d'RTL en direct. La structure de la cathédrale n'est pas menacée, mais les dégâts sont lourds. Une rosace calcinée, des œuvres du 19e siècle en partie détruites et l'orgue principal dans la nef complètement ravagée par les flammes. Un instrument unique âgé de 400 ans. Les fidèles catholiques ont organisé une messe dans une autre église du centre-ville hier soir. Vive émotion du côté aussi des Nantais qui sont nombreux à multiplier les hommages, Mathieu Lopineau.
Oui, place Saint-Pierre, des centaines de Nantais défilent depuis hier devant la cathédrale pour déplorer les dégâts. Jacqueline habite le quartier.
Je suis venue voir là et là j'ai vu les flammes. Là, ça me fait de la peine. J'ai juste baptisé là-dedans, je me suis mariée là.
C'est la deuxième fois que la cathédrale de Nantes est incendiée. En 1972, un chalumeau pendant des travaux avait enflammé la charpente. Carole est émue aux larmes lorsqu'elle voit les fumées s'échapper de sa cathédrale.
Bah, c'est affreux. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et avant que ça soit réparé, c'est pas demain la veille. Hein.
Oui, les flammes ont détruit l'orgue ainsi que la verrière et ses vitraux. Et des dégâts inestimables pour Alain de Laval. Il est historien et spécialiste de la cathédrale de Nantes.
Le grand orgue du XVIIe et XVIIIe siècle qui comportait de très très belles boiseries qui avaient été classées parmi les monuments historiques l'année dernière. L'autre grande perte de cet incendie, c'est le grand fenestrage rarissime du début du XVIe siècle, complètement fondu, soufflé par la chaleur de l'incendie. C'est une perte absolument irréparable pour l'histoire de la cathédrale de Nantes.
Les Nantais ont applaudi hier régulièrement les pompiers pour les remercier d'être intervenus rapidement et d'avoir sauvé leur cathédrale. Sans cela, les dégâts auraient été considérables.
Reportage signé Mathieu Lopineau à Nantes pour RTL. Et les mois est-elle parmi les habitants que l'administrateur du diocèse de Nantes, le père François Renaud, reçoit une avalanche de messages de soutien depuis 24 heures.
J'ai pas pu commencer à répondre à un seul d'entre eux. On me dit le chagrin, la peine aussi, et en me disant, mon pauvre, toi qui es administrateur du diocèse, tu pensais pas que tu aurais ça à vivre. Beaucoup de compassion, d'amitié, de chagrin aussi. Il y avait pas mal de célébrations qui sont prévues dedans. Où est-ce qu'on va les faire? Comment est-ce qu'on va accueillir notre nouvel évêque sans cette cathédrale? Vous savez, une cathédrale, c'est un dispositif très important dans un diocèse, symboliquement. C'est le lieu où les chrétiens se rassemblent dans la communion. Pour eux, c'est un peu une vie qui s'écroule. Et donc, mes préoccupations, de plus en plus, elle est de me projeter en avant en me disant comment on va faire.
D'autant que selon le recteur de la cathédrale, la veille au soir, tout était en ordre comme d'habitude. Immédiatement, hier, le Premier ministre s'est rendu sur place. Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, a écourté sa visite à Lille pour le rejoindre à Nantes. Le gouvernement promet une reconstruction rapide de l'intérieur de la cathédrale. L'État prendra sa part, a répété Jean Castex.
L'inquiétude des villages frontaliers de l'Espagne. Tenté de refermer la frontière, certains élus craignent d'importer des cas de Covid-19. On en parle juste après ça. Restez avec nous.
RTL Matin.
RTL Matin,
Dominique Tenza.
La suite du journal avec Aude Vernuccio. Partons maintenant à la frontière franco-espagnole où l'inquiétude règne dans les villages côté français.
La Catalogne obligée de reconfiner plus de 4 millions de personnes à Barcelone en raison d'une résurgence de l'épidémie, hausse des contaminations et des admissions à l'hôpital alors que les frontières viennent tout juste de rouvrir. Faut-il rétablir des contrôles ou faire machine arrière pour préserver les Français? C'est ce que demande Éric Ciotti, député Les Républicains des Alpes-Maritimes.
J'ai écrit au Premier ministre pour lui demander de mettre en place dans les aéroports, dans les gares, un système de test systématique. Alors, ce test pourrait être réalisé au départ dans les pays d'origine ou plus sûrement et de façon plus sécure pour notre pays à l'arrivée dans les aéroports avec la mise en place d'un test rapide et tant que les résultats du test ne sont pas acquis, la mise en place d'une forme de quarantaine. Ça, c'est la première mesure, je dirais le premier degré. Mais si la situation empire, je crois qu'il faut très très vite fermer les frontières totalement avec certains pays. Nous ne l'avons pas fait au mois de février, au mois de mars dernier, nous l'avons payé très très cher.
Éric Ciotti, joint par Julien Fautra pour RTL. Le masque obligatoire dès demain dans les espaces publics clos de toute la France. Il sera nécessaire par exemple pour aller faire ses courses dans un supermarché ou un marché couvert, aller à la banque ou faire les soldes. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, l'a confirmé hier. À Bruxelles, discussion compliquée autour du plan de relance de l'économie post-coronavirus. Les 27 vont-ils trouver un accord sur les 750 milliards d'euros en jeu? Troisième jour de réunion, le chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte, décrit des négociations beaucoup plus difficiles que prévu, évoquant même une impasse. Plusieurs États demandent un contrôle dans la distribution des fonds.
Le football, avec la reprise des matchs au Stade de France vendredi prochain.
Premier match officiel en compétition après la pandémie, le PSG affrontera Saint-Etienne en finale de la Coupe de France devant 5000 spectateurs. Alors pour éviter toute contamination du côté des joueurs, la Fédération française de foot a établi un protocole médical bien précis, Eric Silvestro.
Oui, pas question de prendre le moindre risque en marge de cette finale de la Coupe de France. 48 heures avant de rejoindre Saint-Denis, tous les joueurs parisiens et stéphanois devront subir un test PCR dans un laboratoire validé par l'Agence régionale de santé. L'arbitre Amaury Delerue et ses assistants devront en faire de même. Par ailleurs, les médecins référents du PSG et de la SSE sont priés de remplir une attestation de surveillance de l'intégralité du staff, mais aussi de toutes les personnes entourant leur équipe. La veille de la finale, un examen clinique sera effectué et un questionnaire démontrant l'absence de symptômes remplis. Jusqu'au coup d'envoi, le moindre signe suspect, fièvre, toux, courbature, entraînera une mise à l'isolement à l'hôtel. Le même protocole devrait être appliqué pour la finale de la Coupe de la Ligue PSG-Lyon le 31 juillet.
Les explications d'Éric Silvestro pour RTL. Inquiétude légitime après cette déclaration de Christophe Galtier, l'entraîneur du LOSC, annonce que 3 de ses joueurs ont contracté la maladie Covid-19 pendant leur semaine de congé. Il s'agit de Bamba, d'Ikoné et de Renato Sanchez. Deux d'entre eux vont pouvoir revenir très vite à l'entraînement. Quelques résultats. Lille s'est justement imposée hier face au Celtic Glasgow de 2-1. Et puis la série noire pour Saint-Etienne, battue à 2 reprises par Anderlecht en match amical. 2-1, puis 1-0.
Et puis on va terminer ce journal avec une odeur tiens, bien sympathique dans les narines.
Ah, vous les sentez, ces effluves de grillade, vous aussi, Dominique?
Oui.
Sur une terrasse, dans un jardin, le barbecue, il est partout. Grand classique de l'été. Encore plus plébiscité des Français après le confinement. Reportage à Tourcoing, dans le Nord, Antoine de Carne.
Ils sont enfin ensemble, dehors, assis sur la terrasse. C'est le moment pour profiter du soleil.
Allez, santé.
Santé.
Ravi de vous retrouver.
C'est la première fois que ces deux couples peuvent se revoir depuis bien longtemps. Une joie pour Marie-Pierre et François, les hôtes du jour.
On est amis depuis toujours, on se voit au moins 2 fois par an. Et puis avec le confinement, c'était pas si simple de se retrouver. Et là, enfin, en juillet, le barbecue.
C'est quoi le menu? C'est des brochettes faites maison, des petites salades, un petit gratin d'aubergine et un petit dessert. Allez, on y va.
Autour du barbecue, justement, c'est François qui agite les braises.
Et voilà, presque prêt. Là, ça chauffe pas mal. On va mettre la grille, les brochettes sont prêtes, encore 3 minutes.
Et 3 minutes plus tard, à table, c'est l'heure de déguster et Fabrice savoure l'instant.
Ça permet aussi de se rendre compte que quand on se retrouve, bah, on a la chance de les avoir, nos amis, le beau soleil. Des bisous, c'est pas encore le cas, mais ça viendra bientôt.
Mais loin de toutes ces pensées, ces repas, c'est surtout un moyen de vivre l'été.
Ça vous a donné faim? Ben c'est normal.
Reportage. 6 heures du matin.
Reportage signé Antoine de Carne pour RTL.
Allez, les courses.